Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est une bataille parlementaire à couteau tiré qui commence. Le budget 2025, dont l'examen a débuté aujourd'hui en commission des finances, enflamme déjà l'hémicycle avant même d'y être débattu. Et le gouvernement prend cher.
La facture, elle est salée. Parce que votre budget, c'est comme le titrait « Alternatives économiques », l'austérité pour tous plutôt que des hausses d'impôts pour les plus riches.
À gauche comme à droite, un vent de fronde souffle au palais Bourbon.
Nous nous opposerons, monsieur le Premier ministre, à ce budget digne des gouvernements socialistes qui frappera les ménages et les entreprises.
Dans la tourmente, Michel Barnier défend son budget qui prévoit 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausses d'impôts pour redresser les finances publiques.
Aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres et je dirai la vérité.
Mais à l'Assemblée, aucun groupe ne valide la copie de Michel Barnier. Tous contre, mais pas forcément pour les mêmes raisons. La gauche dénonce la baisse des dépenses publiques et la suppression de 4000 postes envisagés à l'éducation nationale.
C'est le résultat d'avoir un gouvernement qui n'est pas légitime démocratiquement et qui donc propose un avenir de sang et de larmes au peuple français.
Les Républicains et les Macronistes donnent eux aussi de la voix pour dénoncer notamment la hausse des impôts.
La hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévue sur l'électricité, le gel des retraites pour 6 mois et d'autres mesures fiscales nous semblent trop charger la barque pour les Français.
Alors ce budget 2025 va-t-il prendre l'eau ? Fronde à l'Assemblée, première menace de démission chez les ministres, Michel Barnier peut-il encore trouver un compromis ? Censure ou 49-3 ? Quel rebondissement la bataille du budget nous réserve-t-elle ?
Trois invités pour ce débat. Rémi Godeau, bonsoir, rédacteur en chef du journal L'Opinion. Selon vous, il faudrait faire des économies que l'on n'a pas faites au moins depuis 10 ans ou peut-être même depuis 30 ans. Mais ça ne peut que mal se passer car il n'y a aucun consensus entre les partis politiques et même au sein de la société française. Consensus sur la gravité de la crise de nos comptes publics. À côté de vous, Aurore Laluc, bonsoir, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Vous êtes députée européenne et vous êtes coprésidente du mouvement politique Place Publique. Selon vous, l'équilibre de ce projet de budget n'est pas le bon. Il faudrait faire 2/3 de hausse d'impôts et 1/3 de baisse de dépenses, car trop de rigueur et de coupes budgétaires auraient des conséquences négatives sur la croissance. Et à côté de vous, Simon-Pierre Singarac, bonsoir, co-directeur de l'Observatoire de l'économie de la Fondation Jean Jaurès, qui a publié une note le mois dernier intitulée « Situation budgétaire de la France, quelle trajectoire pour 2025 ?» On y est donc. Et selon vous, le budget est aujourd'hui impossible politiquement, mais indispensable techniquement, évidemment. S'il y a un 49-3, ajoutez-vous, il y aura censure du gouvernement Barnier. Le vrai risque pour la France, c'est qu'on ne vote pas le budget. Et alors quoi ? Ben, on en parlera à la fin de ce débat. Mais pour commencer, le chiffre.
Oui, 1854 amendements ont donc été déposés avant l'examen de la partie recette en commission des finances à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances, avec une légère avance pour le Nouveau Front populaire. 797 amendements contre 767 pour la droite et le centre. Aurore Laluc, la gauche a donc déposé plusieurs amendements aujourd'hui pour augmenter les impôts. Mais il y a déjà 20 milliards d'augmentation des impôts prévus dans ce budget-là. C'est vraiment pas suffisant ?
Alors, en fait, le problème, et je vais rebondir sur l'introduction qui a été faite, parce que...
C'est vos termes, hein ?
C'est mes termes,
oui,
totalement.
Oui, c'est pas les miens.
Et puis après, j'ai tout sous-creusé.
Oui.
Non, totalement.
Oui.
Et en fait, le problème, c'est que les chiffres sont pas bons. Et on se retrouve encore une fois avec un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'on nous présente 60 milliards de nécessité d'économie. Et en fait, quand on regarde et quand on voit ce que dit, par exemple, le Haut Conseil des Finances Publiques, on se rend compte que ce n'est pas 60, c'est 40. Donc déjà, quand même pas banal cette affaire. Ensuite, on se rend compte que sur la répartition, on nous dit que ça va poser 2/3 sur la réduction des dépenses, 1/3 sur la fiscalité. Et là, je me disais, non, ça ne va pas, en fait. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte qu'on a... Il y a un peu de trucage quelque part et que ça pose en fait 2/3 sur la fiscalité et 1/3 sur la baisse
donc
des dépenses.
Donc pas besoin d'en rajouter justement. Si c'est
pas ça. Le problème, en fait, ce qu'on reproche à la France, par exemple au niveau européen, c'est la crédibilité de la parole. C'est-à-dire qu'on a eu un ministre qui est venu nous voir régulièrement, nous disant mais si, je maîtrise tout.
Parler de Bruno Le Maire.
De Bruno Le Maire, les déficits, il y a pas de problème, etc. Et là, tout d'un coup, on se retrouve, pour des raisons, à mon avis, aussi politiciennes, sur l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une réduction de 40 milliards Et on nous présente ça comme 60 milliards. On nous dit on va réduire énormément les dépenses, alors qu'en fait, ça va être finalement de la fiscalité. Je crois que surtout pour avoir un débat correct, parce que c'est la base de la démocratie, hein, quand même, le budget, c'est extrêmement politique. Déjà, il faudrait qu'on commence à avoir les bons chiffres, en fait. Je crois que c'est ça vraiment le point le plus important, à mon sens.
– Jérémy Godot, il y a un trucage ? Il y a comme un air de trucage, comme dit Aurore Lalucque ?
– Il y a une grosse arnaque. Alors, je suis assez d'accord avec le diagnostic, je ne vais pas en faire la même analyse. Oui. Je crois que dès le début, Michel Barnier s'est piégé en parlant de justice fiscale et en laissant entendre, comme d'autres présidents avant lui, en particulier François Hollande en 2012, qu'il suffisait de faire payer les riches pour résoudre le problème auquel nous avons affaire. Or, les Français, au bout d'un moment, se rendent compte que faire payer les riches peut-être, mais qu'ils vont payer eux aussi, que finalement, lorsqu'on ne compte pas en hausse d'impôts, des pensions de retraite qui ne sont pas revalorisées, finalement, ça vous fait moins d'argent. Lorsqu'on dit la sécurité sociale ne va pas rembourser
on va y revenir tout à l'heure.
Vos médicaments.
On va y revenir sur les baisses de dépenses.
Vous allez les payer quand même d'une autre manière. Ils se rendent compte de cette impossibilité. Si vous voulez, on arrive au bout d'une logique. Notre modèle social dysfonctionne. 50 ans durant lequel il a dépensé beaucoup plus qu'il n'a encaissé, 50 ans durant lequel, finalement, les dépenses n'ont cessé d'augmenter, les impôts n'ont cessé d'augmenter, mais comme l'un et l'autre n'augmentaient pas au même rythme, la dette n'a cessé d'augmenter, on arrive au bout de cette logique. Mmh. Et en fait, Michel Barnier a dit « je tiens un discours de vérité », il a tenu un discours de demi-vérité, et son ministre du budget, qui est un peu moins connu, a dit à un moment une vérité. Il a dit « Ah ben, le redressement des finances publiques, c'est l'affaire de tous ». Ah ben oui, ça va être l'affaire de tous et ça va faire mal.
C'est l'affaire de tous, Simon-Pierre Saint-Garac. En même temps, c'est le maintien des idéologies aussi. On dit qu'il y a un affaiblissement des idéologies, mais la gauche, c'est plus d'impôts, et la droite, les macronistes, en veulent moins. Ça reste inchangé.
Si vous voulez, il y a aussi un élément de balancier. C'est-à-dire qu'on parle de 20 milliards d'impôts, mais ce n'est pas 20 milliards d'impôts sur tout le monde et n'importe qui. Mmh. On sort de 7 ans de baisse d'impôts, qui ont certes bénéficié à tout le monde, on pense à la taxe d'habitation, mais essentiellement aux plus aisés, avec la réforme de l'ISF, avec la réforme de la fiscalité des revenus du capital. Lorsque aujourd'hui on parle d'une fiscalité supplémentaire, c'est aussi en miroir avec ces baisses d'impôts sur les 7 dernières années. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est idéologique ou si c'est un rééquilibrage, un peu un retour au sens commun,
pragmatique
sur le fait que ces 60 milliards d'euros de baisses d'impôts, il faut aussi rappeler que c'est également le même montant que l'effort qui, alors modulo les écarts sur le chiffrage, c'est le même effort qui est aujourd'hui demandé par Michel Barnier. On a supprimé 60 milliards d'euros d'impôts, aujourd'hui on demande un effort de 60 milliards d'euros. C'est bien la preuve que la politique de baisse d'impôts n'a pas fonctionné et contribue à la situation dans laquelle on est.
Godot, vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je ne suis pas d'accord, d'abord c'est factuellement faux, parce que les baisses d'impôts ont majoritairement profiter aux non-riches, si vous faites l'addition, vous allez vous rendre compte, taxe d'habitation, mais aussi IR, mais aussi
CSG, impôt sur le revenu,
mais aussi CSG, mais aussi redevance télévisuelle, mais aussi, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. D'autre part, la politique de l'offre a marché, puisqu'elle a créé 2 millions d'emplois.
Non.
Donc on
non,
peut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça fait, en 1960... Le taux des dépenses publiques, c'était moins de 30%. On est à 45% et le taux de prélèvement obligatoire a suivi. Ça fait 50 ans qu'on fait cette histoire d'escalier où on augmente les impôts, on augmente les dépenses, on augmente les impôts, on augmente les dépenses, et une fois de plus, avec le déficit. Il faut arrêter avec ce discours qui ne fonctionne pas et on n'en peut plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les charges de la dette font que le gouvernement va être paralysé. Aujourd'hui, c'est 50 milliards, c'est presque l'équivalent du budget de l'éducation nationale qu'on consacre à rembourser la dette. Dans 5 ans, ça sera plus de 100 milliards. Et par an, ça veut dire que le futur ministre du budget va devoir chaque année trouver 50 milliards supplémentaires rien que pour rembourser la dette. Et cette dette ne prépare pas l'avenir, elle sert à payer les fins de mois.
L'allègement fiscal, il y en a beaucoup, c'est vrai pour les classes moyennes.
Si je peux me permettre, j'entends dire que la question de la dette et des déficits publics, c'est l'affaire de tous. Oui, tout à fait. Sauf que c'est la responsabilité de certains. Et c'est la responsabilité notamment d'une politique qui a été droit dans le mur, malgré toutes les alertes de la Commission européenne, pas des gauchistes, de la Cour des comptes. Tout le monde a fait exactement le même diagnostic en disant « Votre politique fiscale, elle n'est pas financée, elle ne permet pas de relancer assez la croissance et vous êtes en train de créer de vrais soucis d'un point de vue des déficits et des dettes publiques. » Donc je suis désolée, ce n'est pas qu'une question vague comme ça et rhétorique et c'est notre modèle social qui coûte. Non, non, là, il y a des vraies responsabilités et à un moment, il va falloir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un entêtement idéologique? Est-ce que ce sont des intérêts privés qui sont finalement comme ça, ou une politique clientéliste, disons, qui sont comme ça, teintés, entourés, enrobés d'une idéologie? C'est peut-être un mélange de tout ça, n'empêche que par ailleurs, la politique de l'offre, pardon, elle n'a pas fonctionné. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que de temps en temps, il faille faire de la politique de l'offre. Déjà, c'est quelle politique de l'offre? Il y a plein de façons de faire de la politique de l'offre. Et ensuite, une politique de l'offre, je vais vous dire, ça peut avoir des impacts sociaux négatifs. En revanche, ça fait toujours quelque chose, ça accroît la productivité, ça accroît la compétitivité. Là, on a réussi à avoir un miracle. Là, on a réussi un miracle de faire en sorte qu'on ait une politique de l'offre qui, pour la première fois, on est un pays extrêmement productif normalement, et bien notre productivité a baissé. C'est quelque chose de nouveau, ça, en France. Donc, il faut retrouver un sens de la crédibilité, et puis il faut aussi se dire que, des fois, dans les politiques économiques, on se trompe, c'est pas grave, il faut le reconnaître, et il faut très vite changer de direction.
Simon-Pierre Singuerec, en même temps, on se dit, voilà, on ne va pas trouver de terrain d'entente, ne serait-ce que sur les impôts, c'est impossible, on n'y arrivera jamais, on n'est pas arrivé dans le passé, et ce n'est pas dans ce budget qu'on va trouver un consensus.
Alors effectivement, je pense que ça va être très compliqué, ce qui est assez amusant, alors si on prend du recul, parce que ce n'est pas vraiment une matière à rire, c'est que ce budget fait consensus contre lui. De l'extrême droite à la gauche, tout le monde veut le modifier ou en tout cas annoncer ne pas le voter. Et même dans la société civile, depuis quelques jours, on voit que alors c'est aussi un cirque qui est bien connu tous les ans, mais l'UMI, par exemple, le syndicat de l'hôtellerie, s'est opposé à ce budget. Les responsables de l'économie sociale et solidaire également. Oui,
l'OFCE. Mais c'est des chapelles. Indiqué... Alors par exemple, la hausse du malus sur l'automobile, on pourrait dire que ça peut passer au nom de l'écologie. Le relèvement des taxes sur l'électricité, au vu de ce qu'on a donné aux Français auparavant, on pourrait dire aussi que ça peut passer. Ben non.
Bah, si vous voulez, il y a une étude de l'OFCE qui est sortie aujourd'hui qui l'explique assez bien, c'est que l'impact de ces 60 milliards, plus ou moins, d'efforts, ça va casser la croissance. Grosso modo, l'effort budgétaire va diviser par deux la croissance en 2025. Une croissance en moins, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois détruits.
130 000.
130 000, voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en butée, on va faire des économies qui vont casser la croissance. Et donc, dans l'année prochaine, on verra que les prélèvements obligatoires seront moins importants que prévu. Et donc, on aura de nouveau un problème de déficit. Et dans un an, réinvitez-nous, on aura la même discussion.
Eh ben, vous serez réinvité, mais en attendant, on va parler avec vous et avec Anna donc des baisses des dépenses. 40 milliards d'euros de baisses des dépenses annoncées. Certaines risquent d'impacter directement le portefeuille des Français. Vous nous les détaillez.
Oui, déjà, l'indexation des retraites sur l'inflation va être gelé jusqu'au 1er juillet, ce qui permet à l'État d'économiser près de 4 milliards d'euros, mais c'est autant d'argent en moins, évidemment, dans le portefeuille des retraités. Ensuite, le gouvernement veut baisser les dépenses de l'assurance maladie, avec notamment la baisse du taux de prise en charge des consultations médicales, de quoi rapporter 1 milliard d'euros à l'État. Jusqu'à maintenant, ce taux était de 70%. Il va passer à 60%, ce qui veut dire que, par exemple, pour une consultation à 25 euros, le reste à charge pour le patient sera désormais de 10 euros au lieu de 7,50 euros. Résultat, les complémentaires santé vont devoir compenser la différence pour que les assurés soient remboursés comme par le passé et vont donc obligatoirement augmenter leurs cotisations. Et à la fin, eh bien, ce sont les patients qui vont assumer ce coût supplémentaire. Et puis enfin, le gouvernement prévoit un recalibrage des aides écologiques. C'est 1,5 milliard en moins d'euros, pardon, ce qui veut dire moins de financement pour le dispositif MaPrimeRénov et aussi moins de primes à l'achat pour les voitures électriques. Rémi Godot, est-ce que ces baisses de dépenses qui viennent directement toucher au portefeuille des Français, est-ce que c'est bien là aussi un tour de passe-passe du gouvernement pour éviter d'avoir à augmenter les impôts ?
Non, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est qu'il faut trouver le mix. Alors après, on peut critiquer le mix, on peut dire qu'il fallait faire plus d'impôts, moins de dépenses. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on fait ces baisses de dépenses dans la pire des conditions. Vous savez, il y a beaucoup d'arrogance en France. Notre situation, d'autres pays européens l'ont connue. Dans beaucoup d'autres, oui, bien sûr, dans le sud, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, mais même dans le nord, la Suède, le Danemark, Belgique. Et ils ont réussi à redresser leurs finances publiques. C'est quoi les critères ?
C'est quoi les bonnes dépenses à supprimer ?
Attendez, je vais vous donner les quatre critères et vous allez voir les bonnes dépenses. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus dans la société. n'y a pas de consensus dans la société. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que la personne qui mène cet assainissement, c'est-à-dire le président et le Premier ministre, ait un mandat clair. Je ne suis pas sûr que Barnier ait un mandat clair. La troisième chose, c'est qu'il ait une majorité solide, parce qu'on sait que ça va tanguer. La majorité n'est pas du tout solide. Et le quatrième critère, c'est d'avoir de la durée, parce que vous ne redressez pas un gros paquebot comme ça en un an, en deux ans. Donc là, parce qu'il y a une crise, on est obligé d'agir à chaud, donc on agit mal, donc on agit, c'est sûr, sur les dépenses, de manière, dans l'urgence, donc de manière, je ne dirais pas aveugle, mais de manière qui n'est pas du tout optimale, parce que, ça, effectivement, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal.
Je suis d'accord avec cette analyse, c'est un budget qui est fait effectivement dans l'urgence, qui n'est pas simple politiquement à faire, et ce qui fait qu'il a... C'est un budget, disons, sans envergure et sans vision, hein, si je lis les choses un petit peu brutalement. Mais en même temps, c'est sûr que Michel Barnier n'est pas dans une position simple. Après, non. Le problème, comment dire, côté européen, on n'attend pas, en fait, un gonflage, encore une fois, des chiffres. Mmh. On attend à ce que la France nous donne une perspective claire. Et on n'a pas besoin que ce soit très brutal, comme ça, du tout. On a besoin d'avoir une stratégie claire sur plusieurs années, sur 7 ans.
Mais vous proposeriez quoi, vous, Michel Barnier, si vous tendiez la main ?
Ce qui m'inquiète là, en fait, si vous voulez, et c'est peut-être l'élément d'analyse qui manque,
concrètement.
Il faut relancer la croissance. En fait, pourquoi ? On a été droit dans le mur ces derniers temps en termes de déficit et de dette publique. C'est que la France a tablé sur des chiffres de la croissance qui étaient totalement irréalistes. Et par ailleurs, la croissance en France est tirée par la demande. Or, avec l'inflation, eh ben, la demande a été là, en berne via la consommation.
En baissant le pouvoir d'achat, on ne va pas vers la croissance.
Eh ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que là, ce qui est proposé, la grosse crainte que, je pense, beaucoup d'économistes et d'élus ont, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où la croissance va diminuer. Et donc, en conséquence, on ne va pas retrouver beaucoup de marge budgétaire. Et je pense que la crainte d'un grand nombre d'entre nous, c'est que finalement, comme ce n'est pas un budget qui est stratégique, comme a fait le Portugal. Le Portugal, ils avaient une vraie stratégie pour relancer la croissance, justement. Eh bien, résultat, on se risque d'avoir le pire du pire, c'est-à-dire la dette et les déficits qui ne vont pas bouger, la croissance qui sera en berne et une augmentation du chômage.
Si on va dans le mur, c'est que ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut relancer la croissance et qu'on paie du pouvoir d'achat supplémentaire sur la dette, sur rien. Oui. C'est ça le problème. Et on arrive au bout, une fois de plus, on arrive au bout de cette logique. Mais et non, c'est vrai que ça va faire mal à la croissance. Mais la croissance, on la tue à feu doux depuis un demi-siècle. Elle était à 5% dans les années 60, elle n'est plus qu'à 1%.
Dans les années 50, on sortait de la guerre. Donc forcément, on avait des taux de croissance élevés parce que le pays était en train de se reconstruire. Maintenant qu'on est un pays développé, on a des
années 70, on a des croissances.
Si on prend un exemple très concret sur la réforme de l'assurance chômage dont on parle, qui pourrait rapporter 3 milliards, c'est vrai qu'on se dit qu'à 7,5% de chômage, c'est historique dans notre pays, pourquoi ne pas toucher à cela ? Est-ce que là aussi, pourquoi ça ne fait pas consensus ?
Si vous voulez, ça dépend quel est l'objectif. L'assurance chômage, d'un point de vue budgétaire, n'est pas un sujet. C'est très peu...
Non, c'est pas un sujet.
Non, c'est pas un sujet, c'est relativement équilibré et ça pèse assez peu par rapport à d'autres postes comme la santé ou les retraites. Donc si l'objectif, c'est de faire des économies, on peut d'abord s'attaquer à ce qui coûte davantage, premièrement.
Par exemple ?
Par exemple, les retraites et la santé. Les retraites et la santé, c'est quasiment la moitié.
Donc la désindexation de 6 mois ?
Vous êtes pour.
Provisoire, vous êtes pour.
Vous êtes pour.
Je suis plutôt favorable à une désindexation des retraites, mais attention, sur les grosses retraites. Et par ailleurs, il y a la retraite qu'on dit de base par la Sécurité sociale. On pourrait aussi penser à la retraite par capitalisation dont bénéficient essentiellement les cadres supérieurs et les professions libérales. On pourrait revoir la fiscalité très avantageuse. C'est l'une des principales niches fiscales en France qui coûte de l'ordre de 5 milliards d'euros. On pourrait repenser la fiscalité de ces retraites par capitalisation.
Mais tout le monde est contre la désindexation, là aussi.
Bah écoutez, du point de vue des mesures...
C'est électoraliste, quoi.
Je pense effectivement que cette population vote davantage. En revanche, d'un point de vue de trouver des économies qui ont un faible impact sur la croissance et un faible impact social, c'est tout trouvé. Maintenant, il y a aussi énormément, et ça, il faut le rappeler, personne ne le dit suffisamment, qu'il y a beaucoup de retraités pauvres et vulnérables. Donc, il faut bien... il faut bien cibler pour...
les minimum vieillesse ont été augmentés, les petites retraites ont été augmentées. Alors, il y a un débat politique, bien sûr, et le Rassemblement national, qui, dit-on, pour certains, fait figure d'arbitre, continue de brandir la menace d'une censure en cas de 49-3. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme.
Il est évident que c'est nos lignes rouges et si aucune proposition n'est reprise, je ne vois pas comment on pourrait voter ce budget. Je pense que si M. Barnier ne prend pas en compte nos propositions, il y a un chemin vers une motion de censure.
Alors, aujourd'hui, Jordan Bardella a dit qu'il ne voterait pas pour le budget. Il n'est pas allé jusqu'à la censure, mais c'est possible. C'est une option qui est sur la table. Rémi Godot, on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de majorité de circonstances, même pas, sur certains aspects de ce budget. On va droit dans le mur. Il est possible qu'il n'y ait pas de budget.
Il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais on ne va peut-être pas droit dans le mur. Mmh. Là, ça me fait un peu mal d'entendre le Rassemblement national se montrer en donneur de leçons de l'orthodoxie budgétaire. Je signale que leur première mesure, c'est d'abroger la réforme des retraites et que, selon leur programme, ça va coûter 40 milliards d'euros par an. Donc c'est un peu absurde. Ça va mal se passer à l'Assemblée nationale. Mmh. Mais si au bout de 40 jours, selon la Constitution, l'Assemblée nationale n'arrive pas à se mettre d'accord, il n'arrive pas à voter ce budget, il va passer automatiquement au Sénat.
Vous avez confiance dans le Sénat, je crois.
Voilà, c'est ça. Le Sénat, ça sera beaucoup plus facile. Majorité de droite, il y a beaucoup de sénateurs, ce n'est pas par hasard, dans le gouvernement Barnier. Michel Barnier peut s'arranger avec le Sénat. Et ensuite, ça passe en commission mixte paritaire où il y a une majorité de droite. Bon, malgré tout, on n'échappera pas, a priori, à un 49-3.
Aurore Lalu, quand même, l'Assemblée, sous le regard des Français, si jamais on n'arrive pas à dégager un consensus, ils le souhaitent, là, les Français, on le voit dans les sondages. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité particulière aujourd'hui, gauche et droite, de vous retrouver sur un budget ?
Moi, je l'avais déjà dit, je n'aurais pas mené des négociations de cette façon-là à la sortie des législatives. Je pense que l'idée n'était pas
Parlons d'aujourd'hui.
Oui, mais en fait, ça en découle.
Parlons de maintenant.
Maintenant, ça en découle, parce que l'idée, c'était de donner le pouvoir à l'Assemblée nationale et faire en sorte que les chefs de groupe puissent s'accorder sur une majorité qui permette de déterminer quel sera le gouvernement. Et résultat, on n'a pas fait ça. Donc, on se retrouve dans cette situation, on a Michel Barnier qui est au pouvoir, avec le groupe qui a eu...
Vous pouvez juger que c'est un budget d'urgence, comme vous l'avez dit, dire bon, on l'acte et on verra plus tard.
C'est extrêmement politique, un budget. C'est vraiment l'acte politique majeur. Et ça veut dire qu'il faudrait, moi, je pense, laisser aux députés la possibilité de négocier entre eux et de voir ce qui est possible. Moi, je pense qu'il y a des chemins possibles, que ce soit sur la taxation des super-profits, que ce soit sur la suppression de certaines niches, sur le fait de mieux cibler les aides, ce genre de choses. Sincèrement...
Vous les voyez s'entendre. Vous les voyez s'entendre, les députés français.
Il y a déjà une fracture au sein du gouvernement. Didier Migaud a menacé de démissionner au cas où le budget attribué à la justice serait raboté de quelques centaines de millions d'euros. Donc le gouvernement même semble menacé de l'intérieur, Simon-Pierre Saint-Guérac.
Oui, tout à fait.
Au-delà de la menace du 49-3.
Moi, je suis partie de ceux qui pensent que s'il y a eu dissolution au départ, c'est parce que Emmanuel Macron anticipait les difficultés des débats budgétaires qu'on est en train de vivre. Et du coup, il pensait que par la dissolution, il allait clarifier la situation. Bon, il s'avère que ça n'a pas marché, et donc la situation est empirée. À mon sens, ce que vous avez dit sur la légitimité du Parlement est importante. S'il n'y a pas la possibilité de s'entendre au niveau du Parlement, on ira directement à la censure. En revanche, ce qui est aussi important de voir, c'est
Mais s'il n'y a pas de vote de budget, qu'est-ce qui se passe ? C'est le budget 2024 en 2025 ? Si le 31 décembre, rien n'est fait, qu'est-ce qui se passe ?
Non, le budget, la copie gouvernementale est appliquée par ordonnance dans l'attente du vote d'un nouveau budget.
Ce sera le budget Barnier avec quelques amendements qu'il aura choisis.
Finalement, c'est ce qui serait la meilleure solution, si on vous entend, vous, Rémi Godot.
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, parce que bien évidemment, il y a des choses à améliorer. Et une fois de plus, là où vous avez raison, c'est une question de crédibilité et de prise de conscience. Quand vous parlez du comportement du ministre de la Justice, quand vous parlez du comportement de certains députés, moi, ce qui m'affole, c'est le déni de réalité.
Le déni de gravité ?
Parce que oui, la situation est grave. Et hélas, on parle beaucoup des personnes les plus démunies. C'est elles qui vont trinquer, parce que c'est elles qui n'ont pas intérêt, c'est elles qui ont intérêt à ce qu'on réforme ce système.
Eh bien, écoutez, ce sera la conclusion pour le débat de ce soir. Merci à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.